Chers auditeurs, chères auditrices, nous continuons notre merveilleuse série concernant l'amour de Dieu. Nous arrivons à l'étude numéro 19 et nous aurons deux petites études. Premièrement, l'amour guérit. Et deuxièmement, l'amour et les dons. Pour commencer, prenons l'amour qui guérit. Le toucher de la main du maître. Eh bien oui, c'est quelque chose de merveilleux, le toucher de la main du maître. Que ce soit un maître dans le genre de la musique, ou que ce soit notre maître qui nous touche au moment que nous avons tellement besoin de son toucher qui guérit. Eh bien, pour commencer, parlons d'un très grand musicien. Oh, il est maintenant chez le Seigneur. Mais on en a le souvenir. Et là, nous parlons de son violon. Ce violon était délabré et rayé. Et les commissaires priseurs pensaient que ce n'était pas la peine de passer beaucoup de temps sur le vieux violon. Mais il le tenait en l'air en souriant. « Qu'en offrez-vous, braves gens » cria-t-il. « Qui ouvrira les enchères pour moi ? Un dollar. Un dollar, maintenant deux. Deux seulement ? Deux dollars. Et qui dit trois ? Trois dollars une fois. Trois dollars deux fois. Trois dollars trois fois, mais non. Voilà que du fin fond de la salle, un homme aux cheveux blancs s'avança et souleva l'archet. Il essuya la poussière du vieux violon, en accorda toutes les cordes et joua une mélodie pure et douce, aussi douce que le chant d'un ange. La musique s'arrêta et le commissaire priseur, d'une voix calme et basse, il dit simplement « Que m'offre-t-on maintenant pour le vieux violon ?» Et il le tenait avec l'archet. « 1000 dollars !» Qui dit 2000 ? 2000 dollars. Qui dit 3 ? 3000 dollars une fois ? 3000 dollars deux fois ? Adjugé, vendu, dit-il. Les gens applaudirent, mais certains s'écrièrent, « Mais nous ne comprenons pas vraiment. » Qu'est-ce qui a changé sa valeur ? L'homme répliqua, c'est le toucher de la main du maître. Plus d'un homme a la vie désaccordée, délabrée et déchirée par le péché et vendue aux enchères à bas prix, à une foule souvent inconsciente, comme ce vieux violon. Un plat de lentilles, un verre de vin, un jeu, et il continue à voyager. Il est adjugé une fois, adjugé deux fois, adjugé et presque vendu, Mais voilà, le maître vient, et la foule insensée ne comprend jamais bien la valeur d'une âme et le changement qu'a apporté le toucher de la main du maître. Chers amis, beaucoup d'entre nous sommes comme ce vieux violon délabré et rayé que le commissaire-priseur tenait à la main. Nous avons perdu notre musique, les chagrins et les drames de la vie nous ont privés de chanter les aspirations de notre âme. Pour ceux qui nous entourent, nous ne valons rien. Notre existence est devenue si insignifiante, non seulement pour les autres qui ont cessé de nous aimer, mais même pour nous, que nous avons cherché à nous ôter la vie. Tant de femmes ont raconté leur overdose de somnifères ou autres genres de méthodes suicidaires. Lorsque nous essayons de nous ôter la vie, c'est qu'elle a perdu toute valeur à nos yeux. Mais Dieu veut, il veut nous dire quelque chose. Écoutez ceci. Le maître qui possédait et voyait le violon sur la table des enchères était triste de ce que les gens ne perçoivent pas le prix de son précieux instrument. Il en avait sorti une musique magnifique pendant des années. Il en connaissait la valeur inestimable. Il l'a pris dans ses mains, l'a accordé et joué une mélodie pure et douce, comme le chant d'un ange. Immédiatement, le prix monta de 2 $ à 2 000 et même 3 000 $. Le toucher de la main du maître avait rendu à l'instrument toute sa valeur. Il aimait ce violon et il savait comment l'accorder. Il savait comment le faire chanter comme un ange. C'était le toucher de l'amour. L'amour a guéri non seulement le violon meurtri, mais aussi les gens qui écoutaient le maître jouer pour la foule. Sentez-vous que votre vie est gâchée, inutile et vaine? Vous a-t-on jeté sur un tas d'ordures? Les gens pensent-ils que vous ne valez pas vraiment la peine d'être écouté? Le prix de votre existence est-il descendu si bas que vous vous sentiez un zéro? Bien-aimé, le Maître se tient près de vous en ce moment même. Il vous aime parce qu'il vous a fait. Vous avez actuellement pour lui plus de prix que tous les trésors du monde. Il veut vous prendre dans ses mains. Il veut le faire avec vos blessures et vos cordes faussées et montrer au monde la vraie valeur de votre précieuse vie. Ne voulez-vous pas la lui donner? Ne voulez-vous pas le laisser faire de vous ce qu'il y a de meilleur? L'amour qu'il versera dans l'archet qu'il tient à la main fera vibrer les cordes de votre vie et ces cordes, à leur tour, communiqueront un chant de guérison aux autres. Oui, un miracle arrivera. Non seulement vous, mais d'autres seront guéris par la musique que produira votre existence. Votre vie émettra un chant d'amour qui apportera réconfort et guérison à beaucoup d'autres instruments, on peut dire, qui ont été malmenés et délabrés. C'est donc le temps de la guérison des nations. Il commence dans votre cœur, et cela maintenant. Un journal allemand a écrit l'histoire d'une jeune fille qui se mourait d'une maladie en phase terminale. Elle gisait sur son lit d'hôpital toute la journée, seule et totalement oubliée. Or, un jour, un jeune homme entra dans la chambre et il la vit là, allongée. Il commença à lui parler et une chose merveilleuse se passa. Il devint son ami. Bien vite, ils tombèrent amoureux. Les médecins remarquèrent un changement total dans l'état physique de la jeune fille. Son esprit était ranimé, ses yeux commençaient à briller. L'air de tristesse et de résignation devant la mort se dissipa peu à peu et un air d'espoir et d'optimisme s'installa à la place. Chaque fois que le jeune homme lui rendait visite, sa force augmentait. Elle se mit à lutter pour sa vie. Sa vie devint carrément une prière. « Ô Dieu, laisse-moi vivre. » Le jeune homme la demanda en mariage. Elle ne savait que faire. Mais le temps passant, son corps commença à aimer et désirer cet homme qui lui avait apporté la vie. Elle savait qu'un miracle était en chemin dans son corps et elle promit de l'épouser. Oui, l'amour est une force puissante. Il commença à inverser la maladie de son corps et elle entra dans sa guérison. Peu de temps après, elle quitta l'hôpital pour épouser un homme qui l'avait aimée alors qu'elle était mourante. Oui, l'amour l'a entièrement guérie. Il en est de même dans votre vie et la mienne. Le péché a imprimé sur nous le sceau de la mort et nous nous sommes retrouvés seuls et abandonnés. Certains d'entre nous ont envisagé la mort avec soulagement, tant l'existence était devenue carrément, on peut dire, intolérable. Et c'est alors que Jésus-Christ est venu et il nous a trouvés. Il nous a appris à l'aimer. Il a éveillé dans notre cœur un nouvel amour, un amour que nous n'avions encore jamais connu. Un amour si formidable et si profond qu'il a surpassé toutes nos faiblesses et a détruit la malédiction qui planait sur nous. Nous avons découvert qu'il voulait nous épouser et nous avons dit « Oui, Seigneur, je veux être ton épouse. » Alors, nous avons quitté la maison de douleur, cette maison de douleur et de souffrance pour entrer dans une vie continue d'amour nuptial avec notre époux céleste. Il nous est parfois difficile, oh oui, d'accepter l'amour qui va nous guérir. Mais Dieu veut que nous sachions qu'il n'est pas contre nous, bien au contraire, il est pour nous. Il est même pour les plus vils pécheurs de ce monde. Et je faisais partie de ceux-là. Oui. Donc, croyez-moi, c'est pour cela qu'il est si patient et si fidèle, tellement qu'il attend notre repentance. Il ne veut pas qu'aucun d'eux ne se perde, mais que tous aient la vie éternelle en lui. Certaines personnes ne veulent pas être aimées. Elles se sont consacrées aux forces sataniques. Nous devons pourtant les aimer parce que Jésus les aime. Oui, Dieu les aime. Le Saint-Esprit ne les a pas abandonnés. Leur ange les protège toujours et notre amour peut, il peut les guérir. Une personne a été mariée pendant plus de 40 ans à un homme particulièrement méchant. Il la méprisait complètement. Il n'avait jamais un mot gentil pour elle. Il lui volait son courrier et le cachait. Elle restait parfois des mois sans le trouver. Il se moquait d'elle et de son Dieu. Elle me disait avoir l'impression de vivre avec le diable. Mais dans la prière d'intercession, là, elle sentit que Dieu voulait la voir rester et tenir bon. Ils déménagèrent un jour de la grande ville où ils avaient vécu et s'installèrent à la campagne où elle n'avait ni amis ni moyens de transport pour sortir. Elle devint ainsi, en quelque sorte, prisonnière de ces circonstances. Or un jour, on découvrit que son mari avait un cancer. Il ne lui restait plus que quelques semaines à vivre. Cela était arrivé si vite qu'il n'avait pas eu le temps de s'y préparer. Il fut donc conduit à l'hôpital. Sa femme lui rendait visite fidèlement chaque jour. Et là, sur son lit de mort, il donna enfin son cœur à Jésus. Et il reçut le pardon de ses péchés. Il fut complètement et magnifiquement changé en une nouvelle créature. Il devint si affectueux et si gentil pour sa femme qu'elle disait que c'était une autre personne. Vous ne l'auriez pas reconnu. Il était devenu tendre et doux avec elle et avec son Jésus. Que s'était-il passé? Eh bien, les démons qui contrôlaient sa vie, et cela depuis sa prime jeunesse, avaient vu qu'il allait mourir. Et bien entendu, il ne voulait plus rester dans son corps. Donc, ils partirent et il put enfin recevoir la vérité et accepter Jésus comme son sauveur, être délivré de ses péchés et de sa mauvaise nature. Bien sûr que ça ne se passe pas toujours ainsi. Il y a les démons qui restent parfois jusqu'à la fin pour être sûrs que celui qu'ils ont maltraité soit perdu pour l'éternité. Quelle tragédie, chers amis, pour cette femme de n'avoir eu que deux mois de bonheur avec cet homme. Et même dans cette période, ils n'étaient plus mari et femme, mais malades et amis. Pensez aux années gâchées. Songez à cette souffrance inutile. Ils auraient pu partager une belle vie tous les deux. Mais la grâce de Dieu est grande. L'amour avait tenu bon et à la fin avait guéri cet homme. Ils se reverront bientôt un jour au ciel grâce à la faveur de Dieu le Père dans la vie de cette sainte femme. Quand sa mère Sarah mourut, Isaac fut très chagriné. Or un soir, alors qu'il se promenait dans les champs et méditait, il regarda au loin et il a pu voir Éliézer qui était le vieux serviteur de son père, qui venait de retour avec les chameaux, et Rebecca sa femme. La Bible dit, Isaac la conduisit dans la tente de Sarah, sa mère, et il prit Rebecca, et elle fut sa femme, et il l'aima, et Isaac se consola quant à sa mère. Genèse, chapitre 24, verset 67. Le cœur brisé d'Isaac, ce cœur fut guéri quand Dieu lui donna de l'amour pour cette jeune femme qui avait accepté de quitter sa famille et ses amis et de traverser le désert pour devenir son épouse. L'amour guérira toute la tristesse de votre vie et vous donnera une nouvelle raison d'exister. Quand le fils que David avait eu de Bathsheba, quand il était très malade, David prit le deuil. Il jeûna 7 jours et supplia l'Éternel de guérir son fils. Mais ce n'était pas du tout la volonté de Dieu. Dieu rappela l'enfant à lui et Bathsheba avait le cœur brisé. La Bible dit, et David consola Bathsheba et vint vers elle et coucha avec elle et elle enfanta un fils et il appela son nom Salomon et l'Éternel l'aima. 2 Samuel, chapitre 12, verset 24. Cette histoire est assez triste. Elle commence le jour où David s'est pris de Bathsheba, qui, souvenez-vous, était mariée à un autre homme. Cet amour était si violent, si passionné, qu'il emporta David et lui fit perdre toute raison et l'amena à commettre un acte cruel, un acte indigne de sa personne. Il essaya même de couvrir un péché par un autre péché, car il donna l'ordre de placer Uri, qui était le mari de Bathsheba, l'un de ses vaillants guerriers, de le placer au front dans la bataille. Et là, c'est là où les braves meurent. Et quand Uri fut tué au combat, David épousa sa femme, mais Dieu avait vu son péché. Et l'enfant né hors du mariage vint au monde. C'était le fils de la passion et de la convoitise. Dieu ne pouvait pas le laisser vivre. Cela aurait été une preuve perpétuelle de la faute de David. Alors, dans sa miséricorde et son amour, il rappela le pauvre enfant au ciel. Mais la mère était affligée, son cœur était brisé. Comme toute mère, elle aimait son enfant. C'était le fruit de l'amour. Lorsque son cœur était brisé, David est allé vers elle. Il l'a prise dans ses bras et il l'a réconfortée. La Bible dit: il vint vers elle et coucha avec elle. Après 7 jours de jeûne, David connut sa femme et elle conçut. Quelle sorte d'enfant fut conçu après un jeûne de 7 jours? Nul autre que le beau et grand Salomon. Il était le fruit de la sainteté. Il était la semence de la pureté et de l'amour divin. L'amour de Dieu marque sa vie, parce que David avait cet amour dans le cœur quand il est allé vers Bathsheba. Quel beau enfant l'humanité produirait aujourd'hui si tous les actes sexuels étaient accomplis dans la même belle sainteté et dans l'amour inspiré par une vie de jeûne et de pénitence. Le monde serait rempli de Salomon. Salomon était un homme de paix. Il n'alla jamais au combat, ni n'a eu à se lancer dans une guerre. Il régna en paix sur la gloire d'Israël. Jamais il n'y a eu un tel roi en Israël, ni dans le monde. L'amour que David avait pour Dieu guérit son cœur brisé, et il communiqua cet amour à sa femme Bathsheba, la consola et guérit son cœur meurtri. Le résultat fut qu'elle put concevoir un enfant de paix et de sagesse. C'était l'amour qui guérit, l'amour qui restaure. Chers amis, écoutez encore ce beau poème. Mon amour pour toi, c'est le titre. Mon amour pour toi est comme le soleil d'été niché dans les arbres paisibles. Mon amour pour toi est aussi frais qu'un torrent d'hiver jaillissant de louanges pour un si merveilleux amour. Mon amour pour toi est aussi haut que les nuages majestueux s'enroulant en éclats roses et vermeils, caressés par la tendresse du soleil couchant. Mon amour pour toi est aussi profond que le sein de l'éternité, renvoyant l'écho de la lumière et de l'amour à travers chaque cellule de mon être. Chers amis, notre deuxième petite étude, c'est l'amour et les dons. Une des actions les plus significatives de l'Esprit Saint est d'inspirer et nourrir des relations. Quand on lit un passage comme Saint Jean, chapitre 14, versets 16 à 21, où Jésus promet à ses disciples qu'ils recevront un autre consolateur. Oui, eh bien l'Esprit de vérité, c'est cet autre consolateur, c'est l'Esprit de vérité. Là, on est dépassé par le nombre de références qui y sont faites aux relations. Qui soit éternellement avec vous, et vous le connaissez, il demeure en vous. L'Esprit Saint demeure en vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, est-il dit, mais je viens vers vous et vous me verrez. Je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous. Ce n'est pas sans raison que l'évêque John Taylor a décrit le Saint-Esprit comme étant l'intermédiaire de Dieu. Dans son livre « Les dons offerts », Tom Smile a remarqué à quel point l'œuvre principale du Saint-Esprit, ainsi qu'elle est révélée dans le Nouveau Testament, n'a rien à voir avec ce que nous pourrions décrire comme étant des manifestations charismatiques, mais plutôt avec deux relations essentielles résumées dans les simples confessions « Abba, Père » et « Jésus et Kyrios », c'est-à-dire « Seigneur ». C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'avoir des relations avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette relation avec nos frères et nos sœurs en Christ à l'intérieur du même corps. C'est le Saint-Esprit qui nous place dans la relation appropriée envers la création toute entière de Dieu. Romains, chapitre 8, verset 22. C'est le Saint-Esprit qui, dans la lumière de toutes ces autres relations, me rend capable de voir qui je suis et où je vais. Toutes ces relations sont des relations d'amour, l'amour au sens le plus profond et divin. C'est l'amour déversé en puissance à la Pentecôte. C'est l'amour générateur de vie, de la résurrection. Mais plus fondamentalement, c'est l'amour du calvaire. Le Jésus qui est apparu à ses disciples dans la chambre haute après la résurrection et qui a soufflé sur eux en disant « Recevez l'Esprit Saint ». C'est le Jésus qui leur a montré les marques de clous dans ses mains et la blessure de la lance à son côté. Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. À cette occasion, nous nous rappelons que le Saint-Esprit de la Pentecôte est le Saint-Esprit du calvaire. Quand nous sommes emplis du Saint-Esprit, il fait devenir réel l'amour du calvaire en nous et à travers nous, en le corps du Christ et à travers lui. Le résultat net de ceci est que l'amour dans lequel nous devrions exercer les dons de l'Esprit Saint est c'est l'amour totalement gratuit du calvaire. Enfin, il a été dit que tous les dons de l'Esprit Saint sont marqués par le signe de la croix. Nous pouvons donc nous attendre à ce que les dons de l'Esprit Saint soient des manifestations concrètes de cet amour. Ils sont l'amour du Christ, qui agit dans la création, dans la croissance et l'édification du corps du Christ et sa mission. Le corps du Christ dans lequel les dons opèrent est une communauté au sens le plus fort du terme. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 24 à 26, et Romains, chapitre 12, versets 4 et 5. C'est donc une communauté où les membres ont la volonté d'œuvrer pour l'édification de tous. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26. C'est une communauté où les membres recherchent les dons de Dieu, non pour leur propre perfectionnement, mais pour le bien commun. 1 Corinthiens 14, verset 12, et Éphésiens, chapitre 4, verset 12 et 13. Nous le savons par notre expérience de la vie chrétienne et par le travail dans des églises qui sont de pâles reflets de la vision du Nouveau Testament en ce qui concerne le corps du Christ, que c'est l'amour du Christ seul qui nous permet de manifester véritablement le corps, d'être Jésus pour notre monde contemporain. La seule façon pour que cette communauté puisse exister, c'est l'amour du Christ dont le fruit est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Samuel Chadwick, il a observé que bien souvent l'Église excelle pour ce qui est des mécanismes, mais échoue dans les dynamismes. C'est tout à fait vrai. Mais si les dynamismes doivent fonctionner à plein temps et à pleine puissance, il leur faudra toujours le lubrifiant de l'amour du Christ. Le but de cette étude est d'indiquer que le passage le plus significatif du Nouveau Testament au sujet des dons de l'Esprit, c'est 1 Corinthiens chapitre 13. Ça, c'est l'hymne de Saint Paul à l'amour. Il a été écrit pour défier les Corinthiens à cause de leur apparent manque d'amour. Ils semblaient avoir des dons, même des dons en abondance, mais la dynamique s'épuisait à cause de leur attitude malveillante. Dans le chapitre 12, l'apôtre Paul souligne la nature et le type des dons que le Saint-Esprit accorde. Au chapitre 14, il continue en donnant des instructions claires sur la manière dont devraient être exercés les dons dans le culte de l'Église. Ainsi, le chapitre 13 et ses incitations à permettre à l'amour du Christ, en effet, cet amour du calvaire que l'Esprit démontre toujours dans ses œuvres, de pouvoir dominer dans toute matière. Ça, c'est le pivot de l'argumentation de l'apôtre. On a le sentiment d'un saint Paul remarquablement tranchant dans 1 Corinthiens chapitre 13, bien que ces paroles s'inscrivent dans le cadre d'exhortations claires, très claires et pleines d'amour pour ses lecteurs, afin qu'ils recherchent la voie par excellence. Les dons sans amour sont totalement inutiles au service du Christ. N'oublions jamais cela. Je répète, les dons sans amour sont inutiles au service du Christ. La pierre de touche de l'exercice de ces dons est, l'amour est-il ou non, reproduit en action ? Les dons révèlent-ils ou non Jésus-Christ ? Dans son livre « Les dons et les grâces », Arnold Bittlinger écrit ceci. « Les dons sont des fonctions du corps du Christ. Et quand les dons ne sont plus l'expression des actions du Christ, ils ne deviennent pas seulement inutiles, mais ils deviennent même dangereux dans leur effet. Je suis donc certain que ce n'était pas une coïncidence lorsque, aux premières années de ce siècle, le 19e siècle, des groupes de chrétiens ont commencé à ressentir en quelque sorte un nouveau afflux de la Pentecôte. Il s'agissait de groupes des églises de la sainteté. Je parle du début du 19e siècle. Il y avait des personnes qui avaient recherché avec ferveur l'amour parfait qui ne vient que lorsque l'Esprit Saint habite en vous. Ces personnes avaient commencé à découvrir ce que c'était que de vivre dans l'amour du Christ. dans le chapitre 13, versets 4 à 7, l'apôtre Paul dépeint la nature de l'amour. Il pouvait très bien être en train de parler de Jésus, car dans ces versets, il est possible de remplacer le mot « amour » par le nom « Jésus » et d'en conserver toujours le sens parfait. L'essence de l'amour est décrite dans ces versets où il est mis en contraste avec le fond d'égoïsme et de méfiance qui semble avoir caractérisé l'Église corinthienne. L'amour a une signification éternelle. Il caractérise tout ce qui est au ciel, mais viendra un jour où le Seigneur amènera l'histoire telle que nous la connaissons à sa fin. Et les dons, ils cesseront d'exister, tout simplement parce que l'être parfait sera venu. Pour terminer cette petite série, disons que le Seigneur Jésus-Christ a appelé ses brebis dans un même corps afin qu'elles puissent prendre part à sa mission sur la planète Terre. En termes humains, c'est une tâche colossale. C'est une tâche bien au-delà des possibilités humaines. Mais rendons grâce à Dieu. Il n'attend pas de nous que nous utilisions uniquement nos propres ressources. Nous avons des ressources divines qui sont à notre disposition. Ce sont les dons de l'Esprit de Dieu. On a remarqué que ce n'était pas de l'abus des dons que devait s'inquiéter l'Église, mais de leur non-utilisation. Nous avons besoin des dons. Nous devons nous tenir prêts à recevoir et utiliser les dons. Cependant, c'est toujours l'amour du Christ, cet amour qui nous rend capables de manifester véritablement le corps du Christ par l'exercice des dons. L'amour est donc le test d'authenticité d'une vie emplie du Saint-Esprit et de l'Église qui est investie du Saint-Esprit et non pas la manifestation des dons spirituels, mais l'amour. Et l'amour dans son seul contexte qui soit approprié pour l'utilisation des dons. Suivez donc la voie de l'amour et aspirez aux dons spirituels. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1. Chers amis, nous allons maintenant terminer par la prière. Prions. Mon Dieu et mon Père céleste, tu es tout pour moi, ton nom est mon soutien. Je te révère, ô Dieu, persuadé que tu es le salut de tous ceux qui souffrent et que tu es le chemin de toute espérance. Je t'aime, Seigneur, et j'implore ta miséricorde pour que tu viennes à mon secours par ton Fils bien-aimé, car je souffre, comme tu le vois, de l'abandon immérité dans lequel je suis plongé. je te demande, ô mon Dieu, de faire cesser cet état, de me protéger et de permettre de reconquérir l'affection de celles et ceux qui m'ont laissé de côté. Ô Seigneur, là où tu le veux, la vie est prolongée. Là malade se rétablit, le péché s'efface. Je t'invoque, ô Seigneur, afin que tu me regardes à mon tour. Accueille mon espoir. Prononce ma délivrance, afin que mon corps affligé de maux reprenne la santé et que mon cœur meurtri par les épreuves et les chagrins se gonfle d'un nouveau rayonnement. Je suis attentif à tes actes, à tes commandements, ô mon Dieu. Je t'invoque avec amour. Pardonne mes erreurs et mes fautes et exauce ma prière. Ô Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui donne toute bonne chose, sans l'aide duquel toute œuvre est vaine, sans la grâce duquel toute sagesse est folie. Accorde-nous, t'en implorons, que dans nos entreprises, ton Esprit Saint ne nous soit pas refusé, mais que nous puissions promouvoir ta gloire et la venue de ton royaume à travers Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur Dieu, Dieu unique, rends ton peuple un, quelles que soient nos différences, même pour les sujets essentiels, puissions-nous toujours réaliser que nous sommes un dans le Christ Jésus. Ne laisse pas Satan briser le lien béni de l'union entre les croyants, mais que ce lien puisse être renforcé toujours plus dans notre propre expérience et dans tout ton peuple aux quatre coins du monde pour l'amour de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études et à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette merveilleuse série. Au revoir. Au revoir.